Bonjour à toutes et à tous. Glenn Gould, 1932-1982. Non, je ne suis pas du tout un excentrique. Cette phrase de Glenn Gould sonne comme une dénégation. Gould, ce pianiste qui révolutionna notre façon d'écouter la musique alors qu'il n'avait que 23 ans, qui ne remonta jamais sur scène après ses 32 ans et qui jouait avec des gants. Et pourtant, si Gould disait vrai qu'il n'était pas un excentrique, mais bien au centre, au cœur même de la partition, comme un chaman ou Jésus-Christ. C'est ce que vous propose aujourd'hui de découvrir Une vie, une œuvre, au cours d'un trip lyrique de Toronto à Toronto, en passant par Moscou, New York et la solitude glacée du Grand Nord. Une quête de l'extase et de l'impureté au goût de médicaments, de scotch et de caoutchouc. Une variation pleine d'humour et d'amour, signée Laure Limongi et Nathalie Battus.
Goodness, I wish they'd fix the heating system in this place.
Oh, I know, it's always incredibly cold in the studio.
Cold? I always find it incredibly warm and terribly stuffy.
Would you settle for leaving the thermostat just the way it is, maybe?
Why not?
Une vie, une œuvre. An idea of Glenn Gould. 1932-1982.
Is this where you want me to sit, by the way?
No, I think probably we should swap places, actually, so I can be next to Sir Nigel.
Oh, okay, sure.
Le personnage n'avait rien de banal. Rien. Jamais. Ce n'était pas un génie par intermittence. C'était un génie à l'état permanent. Je crois qu'il est même probablement mort de ça, son cerveau a explosé devant c'était un cerveau en allumage incessant.
I think we should go ahead, don't you?
I'm afraid we'll have to.
Pour lui, ce qui comptait, ce n'était pas la recherche de la décharge instantanée et momentanée d'adrénaline, mais plutôt la construction progressive sur la durée d'une vie entière, d'un état d'émerveillement et de sérénité.
C'est drôle parce que je trouve que toutes les histoires, elles viennent dessiner un personnage. Après, chacun se raconte son Glenn Gould, en fait. Mais chaque histoire apporte quelque chose qui n'est pas du domaine de l'anecdote, qui à chaque fois prend une espèce de dimension avec lui. On a l'impression que chaque anecdote raconte une partie de la grande histoire. Et ça, c'est vraiment super. C'est beau pour ça, parce qu'il est capable de recevoir tout ce qu'on raconte sur lui et que ça vienne colorer le personnage, que ça vienne l'enrichir.
Mort ou pas mort, Glenn est vivant. C'est quelque chose d'un phénomène, je crois à peu près unique, de quelqu'un qui, après sa mort, n'est pas rentré au purgatoire.
On pourrait commencer par évoquer le pianiste de légende. Fils unique, il commence le piano à l'âge de 3 ans, sur les genoux de sa mère. Puis, c'est Alberto Guerrero qui lui donne des cours au Conservatoire Royal de Musique de Toronto. Il est lancé à 23 ans, par son interprétation révolutionnaire des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Nous sommes en 1955 et le public s'enthousiasme pour ce physique d'acteur, auréolé de manie qu'on a tôt fait de caricaturer, allié à des déclarations parfois iconoclastes. On l'adule, oui, il agace, mais il ne laisse jamais indifférent. Ayant en horreur le concert, qu'il ne tardera pas à quitter, Glenn Gould théorise l'enregistrement comme une création à part entière. Il est également un homme de radio et de télévision, un compositeur. Il laisse aussi une œuvre écrite d'importance. Ceux qui l'ont connu décrivent avec émotion un homme à la fois mélancolique et joyeux, un personnage qui excède les descriptions et les cadres. Quelques mois après sa seconde interprétation mythique des variations Goldberg et quelques jours seulement après son 50e anniversaire, Glenn Gould abandonne la vie terrestre. La légende est sur orbite. Et de génération en génération, on continue non seulement à découvrir, mais pourrait-on dire à rencontrer Glenn Gould, qui a su transformer l'enregistrement en matière si sensible, charnelle, éternelle.
Alors, le grand début, c'est quand j'ai découvert sur l'étagère d'un ami le disque The Idea of North, en fait la trilogie de la solitude. Donc j'ai été en fait interloqué par l'inscription qu'il y a derrière, que le Grand Nord fait devenir philosophe les gens qu'il côtoie.
Benoît Giroux.
Donc je me suis dit, c'est quoi ce disque, de quoi ça parle et tout ça. Et donc là, j'ai découvert d'une part l'œuvre, et puis après, j'ai découvert Glenn Gould, dont j'ai appris plus tard que c'était un pianiste, et que je le connaissais déjà, puisque en fait, ma mère est pianiste. Et donc, on avait ce livre, Le Dernier Puritain, Glenn Gould, Je ne suis pas du tout excentrique, à la maison. On n'avait pas de disque de Glenn Gould, en fait, pas du tout. Et en fait, elle, ce qui l'intéressait, c'était le côté vraiment théorique de Gould. Et du coup, en fait, moi, je suis rentré dans ce pays qu'on peut nommer Glenn Gould par cette émission de radio, mais pas par le piano. Et donc, au fur et à mesure, j'ai redécouvert les variations Goldberg, Bach, et tout son travail, en fait, à la radio, sur toutes les émissions qu'il a faites et tout ça. Voilà. Donc ça a été une partie de ma vie, à un moment donné où je me suis vraiment complètement plongé là-dedans, en fait. Ouais.
Je me demande si, en réalité, ça n'aurait pas été mieux de n'avoir que cette connaissance tellement profonde par la simple écoute. Ce qui s'est passé à Moscou. J'ai toujours dit que ma première rencontre avec Gould s'est passée à Moscou. Et évidemment, il n'était pas présent. Mais je trouve que c'est le type de rencontre tellement symbolique du personnage. Pas présent physiquement, mais présent...
Bruno Mont-Saint-Jean.
Intellectuellement, spirituellement, ce qu'il est resté après sa mort. Alors, il s'est trouvé que, bien entendu, on s'est rencontrés quelques années plus tard à Toronto, et que ça a été une rencontre absolument essentielle de mon existence. D'abord parce qu'elle continuait à m'habiter, et puisqu'elle a donné lieu à un travail d'une dizaine d'années. On a travaillé donc ensemble jusqu'à sa mort, et peut-être aussi, je crois profondément que ça a eu une certaine importance pour lui. Ces 10 années ont été incroyablement productives. Le fait que j'étais à la fois musicien et que réalisateur de films, donc j'avais cette double préoccupation qui était finalement la sienne. Ce qui est extraordinaire, c'est que, bien entendu, c'était un interprète de génie, bien entendu, c'était un des plus grands pianistes de toute l'histoire, mais son souci de communiquer la musique, ou plus exactement, ses préoccupations et son interrogation sur les modes de communication des musiques font qu'il s'est arrêté de donner des concerts, et que le fait que moi-même j'ai décidé de faire des films, c'était aussi une volonté de convertir, disons.
Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de musique à la maison. Un peu de tout, de la musique classique, du jazz, de la musique baroque aussi.
Jean Rondeau.
Et je me souviens très bien qu'il y avait souvent des disques de Glenn Gould qui passaient. Et c'est vrai que je me suis un peu penché alors sur le personnage, parce que c'est un personnage intrigant qui a marqué l'histoire de l'interprétation et de l'enregistrement. Puis même tout récemment, j'ai encore vu sur Internet une vidéo de Glenn Gould qui passait. Il était encore jeune, mais peut-être il venait d'avoir cette effervescence, il commençait à être un artiste de renommée internationale. On voit cette vidéo où il arrive à New York en taxi, et justement il enregistre le concerto italien. Voilà, on retrouve les mêmes rapports à l'enregistrement qu'on peut avoir, les mêmes appréhensions et les mêmes soucis. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de... Et puis comme en plus c'était une pièce, le concerto italien que je venais d'enregistrer, c'était... Enfin, j'ai adoré voir cette vidéo et voir aussi un peu le personnage de l'intérieur. Mais voilà, c'était très touchant de voir cette vidéo, j'ai beaucoup aimé. You've got the urge to write a fugue. You've got the nerve to write a fugue. So go away.
Il était un acteur absolument stupéfiant. Et par acteur, je ne veux pas dire que par là qu'il jouait un rôle artificiellement conçu. Il jouait son propre rôle, qui était un rôle extraordinairement convaincu. Vous savez, je trouve qu'on a très souvent l'impression que lorsque quelqu'un exprime une pensée profonde, on a tendance à dire c'est du paradoxe, mais c'est de la provocation, etc. Je pense que le fait qu'il ait exprimé ses idées les plus profondes avec toujours une teinte d'humour. Je pense que c'est par l'humour, en fait, qu'il a réussi à nous convaincre. Si vous voulez, je crois beaucoup au fait qu'un documentaire ne doit pas se contenter d'exposer ou d'explorer la réalité, mais que la réalité doit se plier aux besoins du documentaire, d'une certaine façon. Et c'est ce qui a pu se passer avec Gould, du fait de cette compétence qu'il avait, du fait de son amour du cinéma, c'est quelque chose qui l'intéressait profondément. Et nous savions que c'était des films qui étaient déjà qui appartenaient à l'avenir, disons, au futur, que il resterait probablement et que la consommation par une diffusion ne suffirait pas à les épuiser. Voilà.
Le soir de la diffusion donc du premier film à la télévision française, je crois que c'était en 74 si je ne me suis pas trompée, il y a eu une grève de la télévision et donc en de pareils cas, la loi prévoit un programme unique sur toutes les chaînes. Et voilà que tous les foyers français ayant décidé d'allumer la télévision ce soir-là sont tombés sur la planète Glenn Gould, grâce à vous.
Le samedi soir, en général, c'était des émissions de variété qui étaient diffusées en direct. Donc ça ne pouvait pas avoir lieu. Ils n'ont pas eu d'autre choix, les malheureux programmateurs, que de programmer ce film sur Gould, qui était d'abord en anglais, qui était... Glenn était quasiment inconnu. Et puis... La première scène, vous savez ce que c'est? C'est la première scène dans laquelle il arrive avec on voit un espèce de fantôme entrer dans un studio. Il a un paquet dans les bras qui jette à terre, qui est sa chaise. Et à ce moment-là, je rentre dans le champ. Lui-même se défait de son manteau qui vient poser sur un projecteur. Et je lui pose la question, qu'est-ce que c'est que cet objet? Voilà. Et lui-même me raconte, en prenant un accent français en anglais, « Monsieur, you will not speak disrespectfully on the family. Monsieur, vous n'allez pas parler sans respect d'un membre de ma famille, qui est ma chaise, en fait. Bon. » Et donc, c'est une scène, je crois, assez frappante. Et ça il y a eu un impact sur le public, manifeste. Bon. Gould est devenu véritablement une icône du paysage intellectuel et musical aussi, parce que je pense que ce qui est très important, c'est bien entendu l'impact musical. C'est d'abord quelqu'un qui a transformé notre écoute, non seulement de Jean-Sébastien Bach, mais de tous les compositeurs qu'il a abordés, mais notre écoute en tant que auditeur participant. Je crois qu'il a eu, il a souhaité en renonçant à la glamour de la scène, faire en sorte que ses auditeurs ne soient plus les esclaves conviés au banquet des arts, comme il le disait, mais des auditeurs participants et qui sont invités à pénétrer à l'intérieur de la partition.
Le spectateur de l'arène qui regarde une exécution musicale comme s'il s'agissait d'une performance athlétique se tient lui-même à l'abri du danger. Mais il a une sorte de jouissance sadique à voir ce qui se passe sur scène. Or, tout cela n'a rien à voir avec ce qui s'y passe réellement, qui est une tentative faite par l'interprète d'aboutir à une puissante identification avec la musique qu'il joue. Il ne s'agit pas d'un match, mais d'une histoire d'amour. Bien sûr, il peut toujours arriver que quelque chose d'exceptionnellement beau se passe au cours d'un concert. Et dans cette hypothèse, j'aimerais qu'il y ait 20 000 personnes dans la salle, tant qu'à faire, plutôt que 2 000. Mais ces moments sont rares. J'adore l'enregistrement parce que si quelque chose d'exceptionnellement beau survient, on sait que cela va rester. Et que si ce n'est pas le cas, on vous donne une autre chance de parvenir à l'idéal.
Let's see if we can solve the problem of the stereo picture here. It's a little bit too much center.
Okay, there's about 90 for you.
Okay, let's try that then, please.
Same thing again?
Same thing.
Ce qui caractérise le jeu de Gould, d'après la plupart des gens qui l'ont étudié, analysé, décortiqué, c'est effectivement une extrême lucidité, une extrême mise en place des lignes, des formes.
Michel Schneider.
Peu de couleurs, finalement, comme justement quand une image est presque surexposée sous trop de lumière. C'est pas un coloriste, il a pas une palette... de nuances comme d'autres pianistes, Benedetti, Michelangeli ou d'autres, mais
cette lucidité, cette acuité du regard, effectivement, a quelque chose à voir avec ce qu'il cherchait dans ce qu'il appelle l'idée du Nord. Hein. Il y a dans les éclairages rasants des pays du Nord un découpage de la réalité et du réel beaucoup plus précis, beaucoup plus exact et souvent bouleversant, alors que dans les pays du Sud, la lumière zénitale écrase un petit peu les formes et les ombres sont en quelque sorte durcies, oui.
That is too boring. Let's try it again.
Comment ça... Le problème, c'est qu'il faudrait tout redéfinir concernant Gould. Disons, les trucs par lesquels une interprétation est amené à l'expression, qui finalement est le but de tout interprète, l'expression. Il se trouve que Gould inverse tous ses paramètres. Il ne fait pas d'expression par une augmentation du volume ou par des rallentando ou des accelerando, des choses comme ça. Il a un grand sens des intervalles, mais les intervalles ne sont pas exploités forcément comme on le fait la plupart du temps par une augmentation de la dynamique. Il y aurait quelque chose à examiner de très près. Le phénomène de l'expression, et l'expression est très forte chez Gould, sans qu'il y ait altération du rythme et sans beaucoup de nuances dynamiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gigantesque fortissimo ou des pianissimo impalpables, des trucs comme ça. C'est l'échelle dynamique de Gould est assez restreinte, en fait. Et ce qui fait que c'est une des raisons pour laquelle on pénètre aussi dans ses interprétations. Mais disons, dans ce phénomène de l'expression gouldienne, il y a quelque chose de différent de tous les autres. Alors ça se passe aussi par l'articulation, par le phénomène rythmique continu, par une extraordinaire subtilité des altérations rythmiques lorsqu'il s'y prête. C'est pour ça qu'on le reconnaît si bien. On a l'impression à la fois d'une analyse au laser de l'intérieur de la partition, mais surtout ce lyrisme, c'est-à-dire ce personnage qui est dans un état proprement second avec la musique. Ça, j'en étais le témoin extraordinairement frappé, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, et j'ai vu, y compris le travail qui n'était pas filmé, je veux dire, le travail de préparation était tout à fait intense, et Gould perdait presque conscience. En fait, on avait l'impression qu'il allait tellement loin que le phénomène musical, l'audition de la musique qu'il jouait ou qu'il chantait ou qu'il avait dans la tête le mettait dans un état véritablement d'extase.
C'est comme s'il sortait du temps.
Dominique Bertrand.
Parce que ce qu'il évoque là est de l'ordre de l'éternité. C'est une image absolue. Un point avec un cercle, c'est une image qui n'est pas temporelle. Ça représente le temps, mais depuis un lieu qui ne l'est plus. Une sorte d'utopie, voilà. Mais cette utopie, il semblerait qu'elle soit imprimée en lui comme la signature même de son être. Et que tout le reste est contingent. Et en ce sens-là, il serait aussi très platonicien. Hein. Il est le porteur de l'idée pure, et puis celui qui vient mettre cette idée pure au risque du monde, et au risque donc du défaut, au risque de l'imperfection. Et là, il semble qu'il ait été d'une obsession quasi permanente à l'égard de ça. Hein. Comment maintenir cette idée pure dans ce monde? J'imagine que ça devait être terrible à vivre. Hein. Lorsqu'il évoque la sérénité avec tant de beauté, je me dis, mais quand la vivait-il à part quand il jouait ?
Il ressemble à une star. Je pense que la question
Pascal Cassagno
du personnage de la star devait l'intéresser. Et je crois que Glenn Gould, si on revoit en effet ses photographies qui le montrent, c'est les gants en caoutchouc, les gants pas en caoutchouc, les mains trempées dans l'eau chaude avant de jouer longuement, la chaise, etc., les costumes, les postures aussi, les accents, etc., sont des manières de disparaître, c'est-à-dire de faire advenir un autre, un double, enfin un double négatif ou positif, etc., totalement artificiel, donc une fiction, voilà, une fiction dématérialisée, comme Andy Warhol, effectivement, a travaillé à devenir cette fiction dématérialisée avec la perruque. Et c'est ce qui est totalement et ultra contemporain aujourd'hui en 2015. C'est cette question effectivement de la reproduction, de la représentation. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas la réalité qui est première, ce n'est pas le réel qui est premier, c'est la reproduction, la représentation, etc. C'est pour ça que réellement, je crois que Glenn Gould incarne... Il y a quelques figures comme ça qui ont incarné le XXe siècle et qui continuent à être très actifs dans l'imaginaire de tout le monde. Il y a évidemment Duchamp, Warhol... Glenn Gould, peut-être aussi McLuhan, puisque si on met les Canadiens ensemble, et puis voilà, Duras peut-être, et Lacan, et puis après, ça suffit pour travailler encore.
But that's really what you're aiming to do, is to make people sit up on their seats from the first note and say, this is an event, this is a happening.
Yes, if you want it in one word, yes. I think this is the role, I think this is what the only thing performers have left to do in this day of super recording techniques and super recording artists and super recording engineers. I think that all the basic statements have been made for posterity now, and I think what we must do is try to find our way around these things, try to find a raison d'être that is somehow different and still somehow right, that makes sense. I think if it does not...
Vous évoquiez les hétéronymes de Glenn Gould, les déguisements qu'il prenait pour certaines interventions télévisuelles, les accents. Comment interpréter cette démultiplication gouldienne?
D'abord, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'humour, quand même. D'ailleurs, il le disait lui-même, et effectivement, quand on le voit dans tous les documentaires qui sont disponibles aujourd'hui, effectivement, il y a toute une part... Alors, c'est paradoxal, il y a une part de jeu, alors même qu'il s'est retiré de la scène. Néanmoins, voilà, on sent qu'il joue avec ses hétéronymes, mais aussi il joue avec ses rôles. Donc, beaucoup d'humour. En même temps, c'est une posture littéraire aussi, puisque finalement, si on repense à Borges, si on repense à Psoa, si... Beaucoup d'intellectuels, de créateurs tout au long du XXe siècle donc se sont aussi attachés à travers la question de l'hétéronyme à remettre en question à la fois la question de l'identité mais aussi l'identité de l'œuvre. Donc je pense que c'est une manière peut-être de s'amplifier, c'est comme un amplificateur théorique chez Glenn Gould, probablement l'hétéronyme, le jeu des hétéronymes et toutes les postures qui accompagnent effectivement ces divers personnages oui, allemands ou autres. Sont une manière peut-être pas de contrôler, mais en tout cas de diversifier, de détendre, d'amplifier, d'augmenter, au sens de Pérec, probablement le moment créateur. Et c'est ce qui est singulier et c'est ce qui est plein de charme aussi.
I really thank God that I'm able to sit in a studio with enormous concentration and enjoyment, doing things many times if necessary, and taking what is more important, a view of the work that I'm recording, which lets me in on the composing secrets of the work, really. There have been many occasions when I've recorded something and have come into this studio.
Glenn Gould a toujours préconisé une approche de l'histoire qui ne fait pas partie d'un flot continu obligatoire. Il ne croyait pas, disons, à l'idée du progrès dans l'art.
Bruno Mont-Saint-Jean.
Pour lui, une œuvre de Guillaume de Machaut n'était pas moins belle parce que peut-être moins élaborée que la dernière œuvre de Stockhausen. Voilà. Donc, il y a un processus continu qui se déroule et que tout le système sur lequel l'histoire ou le temps est la plupart du temps fondé et qui est un système de comparaison. C'est quelque chose qui est récusé totalement. Et je crois que ça va même plus profond. Ça va jusqu'au, à l'idée du rejet du principe de compétition comme élément moteur de l'existence. Alors ça va très loin parce que je crois que en plus Glenn habitait quand même sur le continent nord-américain qui est le continent de la compétition par excellence et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il s'est caché, qu'il a été reclus, il n'a jamais fait partie de la vie musicale ni mondaine ni quoi que ce soit de ce genre au Canada qui est un pays beaucoup moins agressif que les États-Unis, mais l'idée de compétition était quelque chose qui est rejeté profondément. Alors on peut mettre ça dans le cadre du temps ou de l'histoire.
I detest audiences, not in their individual components, but en masse. I detest audiences. I think they're a force of evil, if I may once again refer to.
Is that clean enough?
Yeah, I think we can handle that.
We can EQ it.
Dans votre ouvrage, Une idée du Nord, dans le chapitre consacré à Glenn Gould, Glenn Gould, la passion d'enregistrer, vous citez quelques lignes de lui. Dans un très récent enregistrement de moi des sonates de Beethoven, deux pianos différents furent utilisés. Trois mouvements de l'une de ces sonates furent enregistrés en 1976 sur un premier piano, tandis que le mouvement restant fut enregistré en 1979 sur un autre piano. Il est impossible d'imaginer des pianos à la sonorité plus différente. Je savais que ça allait poser un problème, parce qu'il allait se produire un changement dramatique d'ambiance au milieu du disque. Au moment du montage final, nous fîmes quelques essais préliminaires et mîmes les deux pianos sur une fréquence sonore à peu près équivalente. Mais nous nous aperçûmes que cela ne suffisait pas. Nous décidâmes alors de louer un appareil d'égalisation graphique très spécial dont la console était aussi riche en jeux que celle d'un orgue et grâce auquel nous réussîmes à faire sonner le second piano comme s'il s'était agi du premier. Personne ne semble avoir détecté la moindre différence sonore. On peut imaginer le scandale potentiel de telles assertions. Dans cette recherche en studio, il y aurait un parallèle à faire avec l'œuvre ouverte d'Umberto Eco. C'est une grande confiance laissée à l'auditeur.
Oui, alors ce qui est drôle dans ces lignes, c'est déjà le court-circuit chronologique, enfin temporel. Ça déjà, c'est une sorte d'impureté, comme là aussi on pourrait, moi je pensais en réécoutant ces lignes à Pasolini, quand Pasolini fait un film, quant au son, il n'hésite pas à mêler à la fois des images et des sons qui ne participent pas de la même culture, ni même de la même chronologie, mais pour justement évoquer un moment historique. Donc Glenn Gould, c'est pareil, c'est-à-dire qu'au fond, c'était un terrible pratiqueur de l'impureté, ou du court-circuit, de l'incongruité, néanmoins de manière très 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 sérieuse, parce que ça c'était pas un jeu, c'était sa façon vraiment d'être au plus près de ce qu'il pensait devoir être la meilleure interprétation possible de partitions ou d'univers musicaux. Donc je crois que c'est encore un élément supplémentaire à apporter à son extrême inventivité théorique, conceptuelle, que de bousculer la chronologie et aussi de décider qu'il pourra jouer sur des instruments qui ne sont pas les mêmes. En tout cas, on peut imaginer que là, il transgressait quand même quelque chose de très important, qui était peut-être irrecevable par certains concertistes ou interprètes ou musiciens.
Il n'a pas publié de livres. Il a publié une quantité considérable d'articles dans des magazines, y compris dans le New York Times, le texte en 6 épisodes sur Stokowski, qui est digne des meilleures pages de Proust, tout simplement, à mon avis. Donc c'est quelque chose de très substantiel, puisque finalement, pour en publier l'à peu près intégralité, il m'a fallu 3 volumes. Mais c'était une activité qui se réservait pour produire son opus magnum pour après sa retraite. Et la retraite, il avait considéré qu'il la prenait à 50 ans, la retraite du piano. Et en fait, il est mort le jour de ses 50 ans. Et l'activité littéraire à laquelle il pensait se consacrer en tant que telle n'a pas eu lieu. Il n'empêche qu'il reste quand même tous ces magnifiques textes.
Pascal Cassagno, y a-t-il beaucoup d'écrivains, d'artistes qui citent Glenn Gould?
Oui, il y en a beaucoup. Deleuze, évidemment, puisque je pense que le rapport Glenn Gould-Deleuze, ou Deleuze-Guattari d'ailleurs, est assez évident à partir du moment où chacun a travaillé quasiment au même moment d'ailleurs, peut-être selon des parcours parallèles, mais sur les questions de l'altérité, sur les questions de l'enregistrement, sur les questions aussi des territoires, on pourrait dire interdisciplinaire, j'aime pas trop ce terme, mais quand même, réellement, là, dans son sens noble, on peut l'utiliser, de la création. Je pense aussi qu'il faut parler de Derrida, Jacques Derrida, parce que tous les travaux, les premiers travaux de Derrida sur la différence, sur la grammatologie, sur la question de la grammophonie, sont assez homologiques à ce que Glenn Gould lui-même a inventé ou théorisé dans ses entretiens, dans sa pratique, quant à l'enregistrement, quant au travail d'ailleurs de la radio, quant à la question aussi de la dialogie, etc. Donc, c'est pour les penseurs. Les écrivains aussi, beaucoup d'écrivains contemporains se réclament, entre guillemets, de lui. Quelqu'un, évidemment, c'est assez évident, comme Olivier Cadiot, doute son œuvre par beaucoup de points, effectivement, autour de la notion du voyage, du Nord, l'idée du Nord, la solitude, le pays des neiges glacées, etc. Et puis alors la question aussi de l'auto-entretien, de l'auto-dialogue, du reproductible, du ready-made, enfin, l'espace littéraire chez Cadiot, évidemment, il est d'abord un espace littéraire contemporain, sans aucun effet de réalité ni de réalisme. Néanmoins, il procède par collage, en une interrogation assez fine sur la question de la représentation. Effectivement, ça évoque ce que Glenn Gould disait lorsqu'il disait qu'il était enfermé dans le studio d'enregistrement avec le scotch, enfin avec tous ces mètres de scotch promontés, collés. Donc, en fait, interprété aussi. Et on peut dire que Glenn Gould était un pianiste, déconstructeur, monteur, reconstructeur et à l'infini. 3, 2, Q,
Margaret. Hello everyone, I'm Margaret Pachu, and it's my pleasure to act as host for the Silver Jubilee interview with Glenn Gould. It's also my pleasure to introduce to you the distinguished members of our panel who have gathered to celebrate the occasion with us and to interrogate, in their own inimitable fashions, I'm sure, our guest of honor. And Glenn, I assume that you're prepared for that interrogation.
Well, I've just taken a Valium, Margaret, and I'm trying to be as calm as one can be when confronting a bevy of music critics.
Les jeunes créateurs, qui sont plus des créateurs sonores aujourd'hui, se sont très souvent emparés de tous ces propos sur le studio, la pratique du studio, l'enregistrement, la théorie de l'enregistrement, et puis aussi la question de l'entretien ou de l'auto-entretien. Ça, je crois que c'est aussi important d'en parler. De l'auto-entretien que n'a cessé finalement de pratiquer Glenn Gould avec lui-même, comme une radio intérieure. Enfin, je pense qu'on pourrait en parler de cette manière-là. Et ça, c'est des problématiques non seulement qui ont été assez fécondes et importantes dans la deuxième partie du XXe siècle, mais qui le sont encore plus aujourd'hui chez aussi bien des artistes plasticiens qui, ou vidéastes qui ne font pas forcément un travail à partir du son ou avec la musique, mais néanmoins qui s'interrogent sur la question de l'enregistrement, le montage, la question aussi de la représentation sans référent, enfin beaucoup, beaucoup de problématiques contemporaines sur la reproductibilité, le reproductible, ce qui se reproduit, ce qui revient. Voilà, il y a tout un territoire énorme au cœur duquel se trouve finalement Glenn Gould.
Greenland, really?
Greenland, where for several years I researched in the area of Bratellid the mold modifications which were employed in the settlements of Leif Erikson, and in particular the use of the tritone as an early warning system during the attacks on such settlements.
That's a fascinating topic, Dr. Klopfweiser.
Je trouve que l'enregistrement, je trouve que ce n'est pas forcément un moyen pour la musique. Je suis convaincu que voilà, c'est pas un moyen, mais que ça devrait être une fin en soi, ça devrait être une démarche artistique en soi. Et ce qui est intéressant avec l'enregistrement, un peu comme d'ailleurs la photographie ou même le cinéma, c'est que c'est un art, du coup, si on considère ça vraiment comme un véritable art, c'est un art qui est assez jeune, qui a à peu près, à l'heure d'aujourd'hui, à peu près un siècle. Et Glenn Gould est quand même, par rapport au fait qu'il a arrêté de jouer sur scène et qu'il se consacre, comme s'il se consacrait à un autre art, à cet art de l'enregistrement. Et je pense que ça, c'est une démarche que j'admire beaucoup et que je trouve passionnante. Moi, je suis un bébé par rapport à ça. Je n'ai fait qu'un enregistrement en solo de Bach, en toute... modestie, enfin en toute en tant qu'élève, je vais me retrouver aussi dans la démarche de Glenn Gould, dans la mesure où, pour moi, l'enregistrement d'un disque, c'est pas comme un concert, c'est vraiment essayer de raconter aussi une histoire à travers la forme du disque, à travers la forme de l'enregistrement, et pas seulement le fond. Il faut être, à mon avis, comme l'eau, très souple, s'adapter, et être à l'écoute aussi, voilà, des morceaux qu'on interprète.
Et quand je suis arrivée, c'était une froide journée de septembre. Il neigeait à Coral Harbour et il n'y avait absolument personne pour m'attendre. Quand je suis descendue de l'avion, il y avait un groupe d'hommes barbus, l'air bourru, en grosse parka et en bottes. Et j'étais là, moi, fragile jeune fille de Winnipeg, venue dans le nord pour aider les Esquimaux. À cet instant, je crois que c'est moi qui avais le plus besoin d'aide. Je me suis sentie complètement perdue.
This is Glenn Gould, and this program is called The Idea of North.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a à ce point-là aimanté dans The Idea of North qui puisse vous pousser à vous lancer ?
Le Nord.
Je pense qu'il y a ce thème de la solitude, de comment.
Benoît Giraud.
La solitude. Pour lui, la solitude, c'est une nécessité de l'artiste. C'est-à-dire que pour créer, pour inventer, pour aller explorer des territoires inconnus, il faut être seul. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais beaucoup refusé ou pas compris avant. Et en fait, je pense que c'est vraiment la chose qui m'a aimanté tout à coup de me dire, bah ouais, on peut être tout seul dans la vie et pourtant on peut continuer à vivre et à survivre. Après, l'œuvre, elle est tellement riche. The Idea of North, elle est composée comme une partition de musique. Elle parle du Grand Nord, donc c'est tout un territoire qui s'ouvre avec des légendes inuites, cette autre manière d'appréhender le monde qui est là-haut. Dans le Nord de Gould, il y a la musique, donc tout à coup, il y avait tout le contrepoint, il y avait tout Bach, il y avait toute son approche à lui de la musique. Il y avait tout à coup un territoire, en fait, qui s'ouvrait, qui fait que il y avait vraiment du travail. Je suis parti au Canada en résidence pour aller sur les traces de l'idée du Nord et tout ça. Donc on est monté à Churchill, on a fait un film pour la pièce de théâtre en prenant le train qu'avait pris Gould. Enfin voilà, il y a toute une espèce d'aventure qui s'est construite à partir de cette émission.
The North, whether he lived there all the time or simply traveled it month after month, year after year. I can't conceive of such a person being really untouched by the North for the rest of his life. When I left in 1965, police left the job.
It goes on like this. Is there some special?
En fait, lui, donc il a arrêté de jouer en concert à 32 ans, et il est parti. Il s'est dit, ben, j'ai toujours rêvé d'aller dans le Nord. Donc il est parti, mais en fait, il a pris le train donc, pour arriver à Churchill, au bord de la baie d'Hudson. Mais je crois qu'il y est resté, d'après ce que j'ai compris des témoignages de son monteur, il est resté 36 ou 48 heures, en fait. Donc nous, ça nous a un peu libérés aussi. Donc on est parti dans le Nord, et on y est resté 4 jours pour prendre des images de la banquise et tout ça. Et là, en fait, moi, j'ai vécu un... C'est un choc de voir la baie d'Hudson, tout le blanc encore pris dans les glaces. Le vent, on a l'impression qu'il a fait 2000 km pour arriver dans... Voilà, donc ça transperce, ça traverse. On est resté très peu de temps. Et en fait, pour moi, ce qui était important, c'était vraiment cette idée de solitude. Et du coup, ce que j'ai plus exploré, c'est les endroits de Gould entre Ottawa, Toronto, donc qui était sa ville natale, et puis il allait souvent dans un lac au lac Simcoe à 100 km au-dessus de Toronto, et puis il allait encore plus loin au bord du lac supérieur à Wawa. Et voilà, c'était plutôt ça le ferment de l'expérience plutôt qu'aller explorer le Grand Nord ou choses comme ça. Voilà. Donc là-dedans j'ai trouvé des choses, je me suis aussi découvert peureux, apeuré, inconscient, plein de faiblesses et puis en même temps des choses qui m'ont plu profondément, de calme, de sérénité, de parler à des écureuils, d'au fur et à mesure appréhender la nuit dans la forêt, choses comme ça. Mais c'était plus de cet ordre-là, en fait, comme une rencontre avec quelque chose que je connaissais pas, plus que comme une exploration d'un territoire extraordinaire. C'était très banal, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça dans sa quête du Nord, c'est-à-dire, il dit, par exemple, il m'est arrivé de me sentir plus seul dans une ville que je ne l'ai jamais été dans le Nord. Et en fait, pour moi, cette phrase, c'était vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que chacun peut aller explorer son Nord à lui, n'importe où qu'il soit. Ça peut être là-haut, mais ça peut être de sortir et d'aller dans un endroit du quartier qu'on ne connaît pas et d'y rester et de se poser.
Je suis vraiment un écoutant du Grand Nord. Et ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas toujours choisir ce que je veux entendre. J'entends ce que les autres m'infligent, vous savez, le bruit de la civilisation et de ses insatisfactions. Quoi qu'on fasse pour tenter d'y échapper, à moins de sélectionner, de comprendre, d'utiliser ce qu'on entend, on est vraiment perdu. Pas seulement des écoutants perdus, mais vraiment des gens perdus.
Il y a des gens qui considèrent que le fait qu'il ait publié de son vivant qu'un opus, qui est ce quatuor, opus 1, et que lui-même, sur la jaquette de cet enregistrement, a écrit « c'est l'opus 2 qui compte ». Or, il n'y a pas eu d'opus 2. Alors ça, c'est une vue superficielle des choses, parce que je pense que fondamentalement, Glenn est vraiment un compositeur. Il y a eu ce prodigieux quatuor. Mais il y a une quantité d'œuvres esquissées. Mais il y a surtout le fait que, à partir d'un certain moment, en particulier il s'est occupé de radio de manière tout à fait professionnelle, il avait fait, vous savez, beaucoup de radio lorsqu'il était gosse. Lorsqu'il avait 14 ou 15 ans, j'ai retrouvé des tas d'émissions de radio qu'il fabriquait lui-même dans sa chambre, chez lui. Et donc, dès l'âge de 14 ou 15 ans, il s'est beaucoup intéressé à ça. Mais il y a eu une période, disons, à partir des années 70, dans laquelle il s'est vraiment interrogé sur le médium radio. Et il a réalisé toute une série de programmes qui sont, à mon avis, tout simplement, c'est aussi clair que ça, qui sont des compositions musicales, qui utilisent la voix humaine, pas seulement pour son contenu, mais pour ce qu'elle a de musical, la voix humaine parlée. Il y a des structures qui sont tellement élaborées qu'on peut vraiment parler, là, de c'est son héritage de compositeur.
I like to think that I'm not a materialist. I hope I'm not. I'm afraid I am all too often materialistic in my choices.
We just bought ourselves a new house. We bought a house with a lot of waste space in it. And it's not functional. It's got a very grand staircase and so on. It uses up a lot of room. Yeah. I think it's partly that I've grown up in a society where things were very functional.
Et je crois que toutes les personnes qui ont entendu et qui se sont intéressées en particulier à ce qu'on appelle la trilogie de la solitude, qui ont été frappés par le fait que la compréhension de ce qui s'y dit est moins importante que de se laisser emporter par le flot musical de paroles, la plupart du temps superposées, avec un montage et une illustration musicale très 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 élaborée. Je crois que c'est ça, c'est ça. Et lui en était convaincu que c'était son œuvre musicale. À partir du moment où il s'est trouvé devant une réflexion sur la musique d'aujourd'hui, qui était, à son avis, qui ne pourrait passer que par l'électronique. C'est par ça que ça pourrait, que le système tonal ayant épuisé probablement tout son potentiel, grande musique en tant que telle. Voilà, donc toutes ces choses faisaient partie de sa réflexion, et il a décidé de continuer son activité de compositeur par la radio.
I have a man-made friend who bought himself a big boat. He's a nouveau riche. And he went to his neighbor and he said,
précisément, de manière anthropologique, quasiment anthropologique, il voulait faire des documentaires dans le sens noble, encore une fois, dans le sens journalistique, mais des documentaires sur des communautés. Et donc, par ce travail d'écriture, de mise en scène aussi, etc., il se plaçait de fait lui-même au cœur, enfin, il se plaçait lui-même dans ces communautés, il se plaçait au centre, voilà, de ces personnages qui peuvent être nombreux dans The Idea of North. Ils sont cinq, il y a cinq personnages principaux, cinq voix principales, cinq récits principaux. Je crois qu'il voulait absolument retrouver quelque chose d'un espace populaire, presque, je vais pas dire folklorique, mais en tout cas anthropologique, à propos de territoires qu'il connaissait bien, qu'il fréquentait. Il prenait sa voiture, il partait très loin ou avec le train à partir de Winnipeg, mais en tout cas tout le contraire certainement d'un jeu formel.
Ouais, en fait je suis très touché par je pense sa souffrance profonde, c'est-à-dire que c'est quand même un homme qui est fragile, qui prend beaucoup de médicaments, des excitants, des tranquillisants, qui fait des cocktails, on le sent pas posé, pas serein, et qui pourtant se bat pour aller découvrir et raconter des endroits de paix. Et en fait, ça me touche encore, ça m'a beaucoup touché, ça me touche beaucoup. Et je pense qu'une des phrases qui m'a le plus porté, c'est quand il dit qu'en fait, il faut aller fouiller les territoires de la négation. Il faut aller voir là où c'est sombre, il faut aller voir là où on ne voit pas bien, où on ne veut pas aller voir, où on ne peut pas voir.
Alors même qu'il était quand même au sommet de sa gloire en termes de concertiste, en tant que concertiste, le fait de décider d'arrêter, c'est aussi remettre un peu à mal un système économique, enfin toute une économie du concert, du soliste, etc. Donc ça casse une image. Et puis, donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il a décidé à un moment donné que c'était lui qui allait créer les règles, enfin ses propres règles de l'économie de son travail, de son œuvre, y compris dans des dimensions économiques justement, et que ça l'intéressait beaucoup plus de faire des disques, d'enregistrer, de monter et de reprendre autrement, enfin d'interpréter, de déchiffrer, de monter autrement. Ses interprétations. Mais en même temps, effectivement, oui, quand on entend la voix ou quand cette arrivée de Janis Joplin, effectivement, oui, c'est quand même extrêmement politique, parce que on sait très bien que dans sa vie très très brève, Janis Joplin était quand même quelqu'un qui était une rebelle, et oui, donc c'est pas du tout par hasard si elle arrive dans l'espace radiophonique, et si elle, ça repart, ça revient. Oui, je crois qu'il y avait chez Glenn Gould des vraies prises de position effectivement politiques. Voilà, en faveur de minorités, ça c'est ce qu'il a cherché aussi à étudier, à mettre en son dans sa trilogie, mais aussi une façon de décider de son devenir et de sa carrière dans le sens professionnel et marketing du terme. Donc il a voulu effectivement en créer, en décider lui-même les règles et pas se laisser dicter un comportement par le marché.
Columbia records never fade away, they just wear out.
C'est aussi une façon de totalement remettre en question, évidemment, un territoire masculin, militaire, viril, etc. J'y vois même des formes de provocation contre l'ordre patriarcal, militaire, masculin, dans le mauvais sens du terme, militaire au sens du soldat. Alors, il était un soldat d'un autre type, mais pour lui-même, une sentinelle, on pourrait dire, dans le Nord, mais en tout cas, très certainement, très attaché à totalement déconstruire tous ces codes du sérieux, du masculin, du musicien professionnel qui doit incarner une certaine figure. Lui, il a inventé tout à fait autre chose, déjà avec la chaise, avec les gants, les mitaines, les chapeaux, les bonnets, les écharpes, les grands manteaux. il a inventé tout à fait autre chose, un peu un personnage aussi à la Woody Allen, enfin voilà, quelqu'un qui de toute manière déjouait complètement ce qu'on attendait de lui.
Je pense que la personnalité de Glenn Gould, s'il était né dans une tribu d'Amazonie, il serait le chaman, ça c'est absolument évident, par beaucoup d'autres signes d'ailleurs.
Dominique Bertrand.
Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je dirais presque de christique quelque part dans la position de Glenn Gould, quand on découvre, particulièrement dans le journal de crise, quelle est la relation à son corps, et de voir combien ça lui coûte terriblement de rester comme quelque part le gardien d'une certaine grâce. Moi, j'emploie grâce, je ne sais pas si ça plairait à Glenn Gould, parce qu'il lui parlerait plus de morale, peut-être. Bon, dans la tradition chamanique, le monde est un cercle. Le chaman se tient en son centre. Lorsqu'il dit de ce point fixe dans un monde qui tourne que c'est sa devise, on sent bien, de la même manière d'ailleurs que son approche purement mentale du piano, qu'il a une possibilité de se retirer dans un monde qui est un monde clos et en même temps un monde pur, dont le corps n'est qu'un effet secondaire, dont la réalité du monde n'est qu'un effet secondaire. Et en ce sens-là, il est chaman, il n'y a aucun doute. Ce serait exactement la position d'un chaman que de considérer que tout ce qui se passe ici n'est que la projection d'une certaine tenue intérieure. La quête de la manière dont il pose le pouce, dont il va sentir son cou, il y a quelque chose du yogi là-dedans aussi, hein, une connaissance interne. Mm-hmm. Et tout ça au service de cette devise qui semble être vraiment comme une sorte de principe animateur de sa vie.
Il fait dire un de ses personnages dans The Quiet in the Land, un des ancrages des Mennonites, c'est être dans le monde sans être du monde. Et voilà, il y a un peu cette chose-là, c'est-à-dire de pouvoir de pas subir ce mouvement incessant, de pouvoir prendre un peu de recul, d'être un tout petit peu ailleurs, voilà, d'être le point fixe dans le monde qui tourne.
Je ne crois pas du tout être un excentrique. Il est vrai que je porte presque constamment une ou deux paires de gants, que je me déchausse parfois pour jouer et qu'il m'arrive pendant un concert d'être dans un tel état d'exaltation qu'on a l'impression que je joue du piano avec mon nez, mais il ne s'agit absolument pas d'excentricité personnelle. Ce ne sont que les conséquences visibles d'une occupation hautement subjective. Par exemple, certains soirs où mon émotivité est particulièrement vive, j'ai le sentiment que je peux jouer comme un dieu. Et c'est en effet ce qui se passe. D'autres soirs, je me demande si je vais simplement pouvoir parvenir jusqu'au bout du concert. C'est très difficile à expliquer. On investit totalement sa personnalité lorsqu'on joue du piano. Je ne veux pas trop y songer, de peur de devenir comme le mille-pattes à qui on demandait dans quel ordre il bougeait ses pattes et qui est resté paralysé du seul fait d'y avoir pensé.
Moi, quand j'ai connu, il n'y avait plus d'animal avec lui. Les seules relations, c'est qu'il adorait aller se mettre dans un champ de vaches et leur chanter. C'est quelque chose que j'ai moi-même beaucoup pratiqué. Jouer du violon pour les vaches, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas d'auditoire plus attentif et plus intense. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Mais c'est sans provocation. Du fait qu'il avait du mal à accepter la société agressive que représentait l'humanité, et surtout l'extraordinaire phobie du contact physique qu'il avait avec le genre humain.
Je pense que sa relation avec les animaux, assez fondamentalement, en dehors de ces animaux domestiques, effectivement, qu'il a eu très nombreux dans sa vie, mais c'est d'abord une façon peut-être de remettre en question le langage, d'attaquer le langage, et aussi une façon de, encore une fois, de remettre en question toutes les options philosophiques traditionnelles ou toutes les ontologies qui, évidemment, concernent la soi-disant supériorité de l'être humain sur le monde animal ou le monde vivant. Alors, évidemment, là, il y a toute une... comment dire ? Il y a une énorme... Je ne pense pas que Glenn Gould et Derrida se soient rencontrés. Mais on retrouve les mêmes propos chez Glenn Gould qui, finalement... non seulement préférer la compagnie des animaux à celle des humains, mais au-delà de ça, chercher à partager un état commun de pensée avec l'autre par excellence qui est un animal, en dehors du langage, par-delà le langage. Je crois que ces images qu'on voit de Glenn Gould, ces écrits sur son aversion des pêcheurs qui tuent les poissons, etc., c'est aussi quand même, de manière politique, aller s'opposer à la mise à mort. Il y a aussi la question de la mise à mort qui est de l'animal qui effectivement est aussi désigné. Et puis on peut aussi imaginer tout simplement, et ça c'est dans mon esprit pas du tout galvaudé, mais qu'il était aussi à la recherche de la bonté.
Avis de recherche. Oiseau de nuit, amical, reclus, de commerce agréable, socialement inacceptable, anti-alcoolique avéré, bavard impénitent, jalousement non jaloux, spirituellement intense, abhorrant le monde, adorant l'extase, cherche papillon de même nature en vue de séduction téléphonique, de délire tristanesque et de virevolte incessante autour de la flamme. Photo non requise, état de fortune indifférent, âge sans importance, confidentialité assurée, recommandation inutile. Les auditions de toutes les candidatures prometteuses se dérouleront depuis la péninsule d'Anatone, Terre-Neuve.
Il y a, je crois que chez quelqu'un qui maîtrise tous les éléments du langage, du langage musical aussi bien que du langage verbal, la joie, elle est comme un sous-produit de tout ça. Que ça soit quelque chose de spirituel ou moi je dirais plutôt d'ordre de transcendant, la joie ultime. Et parce qu'il y avait aussi chez lui une mélancolie profonde, ce qu'il a appelé à la fin de son existence et qu'il considère que c'était plutôt un compliment de lui appliquer ça, une espèce de paix automnale. C'est un mot que j'aime beaucoup. Mais comme il était très amusant et qu'il y avait ce caractère joyeux, il y avait, moi je dirais, c'est un mot que j'aime plus du tout parce que maintenant on le colle à toutes les sauces, c'est la jubilation. Je dirais plutôt l'exultation. Il y a ça chez Gould, profondément, en dépit de son caractère méditatif, contemplatif. On en a fait un personnage qui n'a absolument pas correspondu à la réalité de ce que j'ai connu, un personnage pathétique, qui était torturé, qui détestait, en fait, un méchant personnage qui détestait les concerts parce qu'il avait le trac, mais il n'y a rien de tout ça. Et au contraire, je crois qu'il y avait cette joie profonde de quelqu'un qui est en rapport avec une quelque chose qui est transcendant, qui a un rapport direct avec ça. Donc je crois que c'est la joie pascalienne aussi. Le feu. On était tout le temps dans un état d'exaltation. Est-ce que c'est l'exaltation ou l'extase ou je ne sais ou la joie, enfin les termes peuvent varier, mais c'était quelque chose qui était très très fort. Nous on a écouté parfois la symphonie alpestre de Strauss des 6 fois d'affilée pendant la nuit, en échangeant simplement des regards. Il n'y avait plus d'échange verbal, c'était simplement le fait d'une communion profonde et avec la joie de partager quelque chose, parce que la plus grande chose de Gould finalement, c'est qu'il a réussi à partager plus que tous les gens qui partagent avec le contact physique. Et je crois que c'est ça qui fait son secret et qui fait que son auditeur se renouvelle constamment. C'est ce sentiment de la possibilité du partage avec lui. Il nous a rendus plus proches en s'éloignant.
C'était Une vie, une œuvre. An Idea of Glenn Gould. Avec Pascal Cassagno, Bruno Mont-Saint-Jean, Benoît Giraud, Jean Rondeau, Michel Schneider, Dominique Bertrand. Texte de Glenn Gould, lu par Bruno Blairet.
Extrait de L'idée du Nord par Benoît Giraud, avec Anne Alvaro et Michael Lonsdale. Archive INA, Annie Lozana. Attaché de production, Claire Poinsignon. Producteur-coordinateur, Martin Kenéen. Prise de son, Alain Joubert. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Nathalie Battus. Un documentaire proposé par Laure Limongi.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kenéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Réécoute, podcast, commentaires et gracieux compléments sur la page de notre émission sur franceculture.fr. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, le prophète de l'islam, Mahomet. Et dans un instant, c'est Le temps des écrivains de Christophe Onodibio.